VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes le mardi 27 mars 2018. Au micro ce matin, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Des titres que nous allons développer, Anne.
Kinshasa dépose une liste actualisée des partis politiques à la commission électorale en vue des prochaines élections en RDC.
Au Togo, le dialogue politique toujours dans l'impasse. L'opposition refuse que le président Nassingbé se représente pour un nouveau mandat.
Au Mali, le chef du gouvernement prêche la réconciliation et la mobilisation contre les djihadistes au dernier jour d'une tournée dans des régions sensibles.
Dans la partie magazine, plein feu sur le mariage forcé des enfants au Togo.
Ils ont fait le mariage sans demander mon avis et moi j'étais pas d'accord. Je l'ai plus ou moins menacé et je lui ai dit que s'il me mariait, je vais le tuer.
Et comme à l'accoutumée, après le journal, vos rendez-vous avec la Minute Éco et les sports.
En République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur a déposé hier soir à la commission électorale du pays la liste actualisée des entités politiques. Au total, près de 600 partis et 94 regroupements sont légalement reconnus et pourront notamment prendre part aux élections prévues en novembre prochain. Quant au dédoublement de certains partis, soit la création d'un parti bis avec le même nom comme dans le cas de l'UDPS, le ministère appelle la justice à s'en occuper. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Une liste inclusive qui a repris tout le monde, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani. Ce qui a été fait enveloppe l'ensemble de la scène politique de sorte que personne ne soit déjà écarté du fait des problèmes qu'il aurait eu au sein de son parti politique. Quitte à ce que les autres instances jouent leur partition, a-t-il souligné, invitant les cours et tribunaux à se pencher sur les dissensions qui persistent dans certains partis politiques. Le cas de l'UDPS qui a vu depuis la mort de son emblématique leader Étienne Tshisekedi, trois courants revendiquaient la paternité du parti. Celui de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala qui l'a élu président en décembre dernier, celui que dirige Jean-Marc Kabound, secrétaire général à la mort de Tshisekedi, qui se prépare à tenir dans quelques jours son congrès avec Félix Tshisekedi parmi les candidats pour succéder à son père, et celui de Valentin Moubaké, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. C'est désormais à la justice de les départager. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition, engagée dans des pourparlers avec le pouvoir, a affirmé hier qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un quatrième mandat à l'élection présidentielle prévue en 2020. Après plus d'un mois de négociations difficiles sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo et seulement trois jours de rencontres, les discussions semblent bloquées sur un principal point de discorde, la non-rétroactivité de la limitation du nombre de mandats présidentiels. De Lomé, correspondance de Kay Lawson.
De 47 amendements pour le retour à la constitution originelle de 1992, la coalition propose de ne retenir que 5 amendements pour faire évoluer les discussions. Les articles concernés sont relatifs aux conditions d'éligibilité du président de la République, aux modes de scrutin, aux prérogatives et modes de désignation du premier ministre, à la recomposition de la Cour constitutionnelle et à la limitation de mandat présidentiel. Sur ce dernier point, la coalition se dit ferme. Nous offrons la possibilité à Faure Gnassingbé de sortir par la grande porte, a insisté Brigitte Adjamagbo, la coordinatrice de la coalition. Si Faure Gnassingbé refuse, ajoute-t-elle, le peuple restera dans la rue jusqu'à ce qu'il parte. Redoutant l'échec du dialogue, la coalition propose une transition pour préparer des élections générales en 2020. Notons que lors des discussions le 23 mars dernier, le gouvernement togolais a accepté de suspendre le processus électoral. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga a regagné Bamako dans la soirée d'hier, après un périple dans le nord et le centre du pays, avec comme dernière étape une visite à Djéné du chantier d'un barrage pont détruit par les djihadistes le 8 mars dernier. Le chef du gouvernement a dit prôner la réconciliation nationale et la mobilisation contre les groupes djihadistes. Le point avec Nathalie Barge.
Soumaïlou Boubey Maïga a entamé le 22 mars sa tournée dans le nord et le centre du pays. Après son passage à Tessali, Saïdite, près de la frontière avec l'Algérie, son escale à Kidal le 23 mars, a été une première depuis la cuisante défaite de l'armée malienne par l'ex-rébellion Touareg en 2014. Il s'est arrêté à Gao, puis à Tombouctou. Hier, devant plusieurs centaines de jeunes à Bandiagara, il a promis la construction d'un pôle universitaire. Il a évoqué l'avant-projet de loi d'entente nationale qui lui a été remis au début du mois, réaffirmant que le sort des combattants qui n'ont pas de sang sur les mains serait pris en compte. La veille, il a assisté à une rencontre de réconciliation entre des dirigeants Peul et Dogon à Koro dans la région de Mopti, où des dizaines de personnes ont été tuées dans de récents affrontements. Le Premier ministre malien a assuré que l'État ne sous-traite pas sa sécurité et que, de gré ou de force, les milices seront désarmées.
Au Burkina Faso, le procès des auteurs présumés du putsch manqué de septembre 2015 doit reprendre ce matin à Ouagadougou. Lors de l'audience d'hier, le tribunal militaire s'est dit incompétent pour statuer sur une récusation des magistrats demandée par les avocats de la défense. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Les batailles de procédure sont comme un parcours du combattant depuis le début de ce procès. Hier, le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, a assuré ne pas pouvoir statuer sur les demandes de récusation. Il a invité les requérants à saisir les juridictions compétentes. Mercredi dernier, Maître Christophe Birba, un des avocats du général Gilbert Diendéré, avait introduit une demande de récusation du président du tribunal lui-même, au motif qu'il avait déjà travaillé sur ce dossier en 2016. Le tribunal s'est également déclaré incompétent sur les autres exceptions soulevées par la défense, qui a aussitôt indiqué avoir introduit des requêtes auprès de la Cour de cassation et a invité le tribunal à sursoir au procès en attendant la décision de cette juridiction. Mais pour Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile, la procédure doit suivre son cours. 84 accusés sont jugés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du coup d'État manqué qui a fait 14 morts le 16 septembre 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Gambie, la police annonce avoir arrêté un autre haut responsable des services de renseignement en liaison avec le meurtre en avril 2016 d'un opposant Solo Sandeng. James Mendy, chef de la sécurité de la National Intelligence Agency, a été placé en détention.
Facebook est toujours dans la tempête, accusé de ne pas protéger suffisamment les données de ses utilisateurs. Et malgré de nouvelles excuses, le groupe californien ne parvient pas à enrayer sa chute à Wall Street. Claire Morin-Gibourg.
L'annonce d'une enquête de la Federal Trade Commission a fait plonger le titre Facebook à la bourse de moins 5%. Le régulateur américain du commerce veut examiner les pratiques du groupe en matière de données privées. En fin d'après-midi, le titre avait encore reculé de 2,70%. La FTC veut notamment savoir si Facebook a violé l'accord amiable qu'ils ont signé en 2011. Le réseau social était alors accusé d'avoir trompé les consommateurs sur leurs données soi-disant confidentielles, alors que Facebook les avait partagées de façon répétée. La semaine dernière, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a expliqué avoir, en 2014, modifié entièrement la plateforme pour limiter de façon très importante la quantité de données auxquelles pouvaient accéder des applications tierces. Depuis la révélation de l'utilisation par la firme britannique Cambridge Analytica des données privées de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques, le réseau social a perdu environ 90 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Les États-Unis ont annoncé hier la plus importante expulsion d'espions russes de l'histoire dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental qui replonge le monde au temps de la guerre froide après l'empoisonnement d'un ex-agent russe au Royaume-Uni attribué par Londres à Moscou. Washington a décidé de l'expulsion de 60 diplomates russes considérés comme des agents de renseignement et de la fermeture du consulat de Russie à Seattle en raison de la proximité de la plus grosse base de sous-marins nucléaires américains. L'Australie s'est jointe aujourd'hui à ce mouvement en annonçant l'expulsion de 2 diplomates russes, portant à au moins 116 le nombre de diplomates russes qui doivent être expulsés dans 23 pays, dont 16 de l'Union européenne. Moscou nie être à l'origine de cet empoisonnement.
Le gouvernement espagnol a évité tout triomphalisme hier après l'arrestation en Allemagne de l'ancien président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, ce qui a déclenché de violentes manifestations dans la région toujours bloquée politiquement. Carles Puigdemont va rester en détention en Allemagne le temps que la justice se prononce sur son éventuelle extradition de l'Espagne. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
D'emblée, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Banque Ouest-Africaine de Développement affiche des chiffres en hausse au 31 décembre 2017. Elle enregistre un bénéfice net de plus de 13 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 26%. La banque a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l'exercice. Le groupe émirati DP World a obtenu une concession de 30 ans pour la gestion et le développement du futur port polyvalent à Banana en RDC. Le coût total de la construction est estimé à plus d'$1 milliard, mais le premier investissement est de $350 millions. Kinshasa détient une part de 30% pour gérer et investir dans le port de Banana. C'est le premier port en eau profonde du pays et permettra d'être connecté aux voies commerciales mondiales pour accéder à plusieurs marchés dans le monde. Il réduira également la dépendance des ports des pays voisins. En Ouganda, la dette nationale a presque triplé sur les trois dernières années et représente désormais plus de 50% du PIB du pays. Cette situation inquiète la Banque centrale. Le niveau actuel de la dette expose le pays à un risque de défaut en cas de volatilité du taux de change et de ralentissement des recettes d'exportation. Aujourd'hui, l'Ouganda doit $6 milliards. Kampala a contracté cette dette pour financer ses projets d'infrastructure, les routes, les centrales électriques, un réseau de fibres optiques ou encore l'expansion d'un aéroport. Le service de la dette représente plus de 17% des dépenses publiques.
Et maintenant les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Match amico sur la planète football, lourde chute pour le Portugal.
Et oui, le Portugal qui a subi une très sévère déconvenue face aux Pays-Bas, c'était hier en match amical à Genève. Le champion d'Europe en titre s'est incliné sur le score de 3-0 face aux Néerlandais qui, on le rappelle, ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils avaient terminé 3e de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.
À suivre ce mardi à Dar es Salaam, la Tanzanie contre la RDC et nouvelle controverse pour les Léopards.
Arrivé à Kinshasa avant de prendre la direction de Dar es Salaam où les Léopards affrontent ce mardi les Taifa Stars de la Tanzanie, eh bien 4 internationaux congolais ont changé d'avis. Il s'agit de Paul-José Mpoku du Standard de Liège, de Gaël Kakuta d'Amiens, de Jordan Ikoko de Guingamp et puis d'Arthur Moswaku de West Ham. Longtemps absent du terrain à cause d'une vilaine blessure, Yannick Bolasi d'Everton ou encore Niskens Kebano de Fulham en D2 anglaise, eh bien eux, ils ont décidé de rester. Après une longue discussion avec le sélectionneur Florent Ibenge, de 21 joueurs convoqués, les Léopards ne sont plus que 17 avant d'affronter ce soir les Taifa Stars de la Tanzanie. Les autres matchs de ce mardi, Kenya-Centrafrique, Angleterre-Italie, Bosnie-Sénégal, Côte d'Ivoire-Moldavie, la Tunisie-Costa Rica et puis à Berlin, un match qui va sentir la poudre. Souvenez-vous Jacques, c'était en 2014, cette demi-finale catastrophique perdue 7-1 par le Brésil à domicile contre la Mannschaft. Eh bien les Allemands qui accueillent ce soir à Berlin. Le Brésil qui voudra sans doute prendre sa revanche à quelques mois de la Coupe du Monde. On rappelle que ce sont les Allemands qui sont champions du monde en titre. Assure également le Nigeria face à la Serbie, le Maroc face à l'Ouzbékistan. Un turnover est à attendre selon le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard.
Et le choc Espagne-Argentine avec Messi.
Et oui, pour une fois, Lionel Messi ne portera pas le même maillot qu'Andrés Iniesta ou Gérard Piqué, la star du FC Barcelone qui défie l'Espagne, son pays d'accueil, avec l'Argentine, son pays d'origine, dans une rencontre amicale à Madrid sur la pelouse de l'Atlético. On suivra ça, bien évidemment. Messi, qui était un temps déclaré incertain, a repris l'entraînement dimanche et a travaillé normalement hier, selon son sélectionneur Jorge Sampaoli, C'est ce qu'il a confirmé en conférence de presse ce lundi. Allez Jacques, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui Nicolas, les Los Angeles Lakers sont officiellement éliminés de la course aux playoffs après leur défaite à Détroit, 112-106. Philadelphie a vaincu Denver, 123-104. New York Knicks, 128. Charlotte Hornets, 137. Memphis Grizzlies, 101. Minnesota Timberwolves, 93. Et Boston, 102. Phoenix, 94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui qui se poursuit donc sur VOA Afrique. Jacques Aristide à Washington au programme dans cette deuxième partie. Quatre dossiers, quatre sujets qui ont fait l'actualité. Et sans plus tarder, nous repartons pour le Mali, qui a marqué hier une date importante dans son histoire politique. En effet, le 26 mars 1991, le colonel Amadou Toumani Touré, renversé par un coup d'état militaire, Moussa Traoré. Cet événement a consacré quelques mois plus tard à l'avènement du multipartisme après l'adoption d'une nouvelle constitution. Le président de la République a déposé hier une gerbe de fleurs au monument des martyrs dans la capitale. La date est donc commémorée chaque année, mais aujourd'hui, 27 ans après cet anniversaire, est diversement appréciée, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Au petit matin du 26 mars 1991, Bamako était en effervescence. Tout le monde convergeait vers la Bourse du Travail. 27 ans après la chute de la dictature, les lieux de convergence ne sont plus les mêmes. Malgré tout, les acteurs du mouvement démocratique trouvent que la révolution de mars 91 est l'aboutissement d'une longue lutte du peuple malien. Djigba Keïta du PPR, acteur du mouvement démocratique.
Dans la lutte après l'assassinat de Cabral, dans toutes les grèves, la résistance à la constitution de 1974, etc., etc., la lutte au Mali n'a pas commencé le 26 mars. Le 26 mars est l'aboutissement de nombreux combats, de nombreuses luttes qu'on a menées, au moins depuis 1968, à la chute du président Modibo Keïta. 26 mars, c'est un acquis fondamental. Et le mouvement démocratique n'a pas échoué. Mais la démocratie, c'est une conquête permanente.
À la maison de la presse du Mali, les jeunes de l'association Faso Kanou ont ouvert le débat pour mieux comprendre la révolution de 91. Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'association Faso Kanou.
27 ans après le mouvement qui a renversé le régime dictatorial, donc nous avons jugé nécessaire que les acteurs clés de ce mouvement-là viennent s'expliquer auprès de la jeunesse pour qu'on puisse vraiment leur poser des questions sans tabou. 27 ans après, le peuple réclame juste qu'à preuve de contraire, certains besoins fondamentaux.
Pour donner des réponses aux jeunes, l'un des teneurs du mouvement démocratique, Maître Moutagatal, s'est prêté à l'exercice.
Il est important qu'à cette date, nous puissions avec eux témoigner, leur apprendre ce que nous avons vécu, essayer de comprendre leurs interrogations et quelquefois leurs protestations. Parce qu'il est clair que toutes les promesses n'ont pas été tenues, mais il est également clair qu'il y a des acquis incontestables. Le mouvement démocratique aujourd'hui est très souvent décrié, mais j'ai dit de la façon la plus péremptoire que le mouvement démocratique a atteint l'ensemble des objectifs qui s'est fixé, à savoir l'instauration d'une démocratie pluraliste au Mali, la liberté dans ses différentes formes.
Fidèle à la tradition, Ibrahim Boubacar Keïta a déposé une gerbe de fleurs au niveau du monument des martyrs. Pour le président malien, la mémoire des milliers d'enfants tués lors des journées folles de mars 91 ne sera pas vaine.
Notre pays est un pays de convivialité, je ne cesse de le dire, un pays de paix, qui n'assure qu'à la paix. C'est pour cela que ces enfants sont morts. Pour que ce pays connaisse un développement à l'instar des autres peuples du monde, ce combat-là ne sera pas vain. Pour lequel nos enfants sont morts, pour lequel nos frères sont morts, pour lequel certaines de nos femmes, nos enfants sont partis, ce combat sera gagné. Inch'Allah. Nous avons devoir, mission, vocation à créer les conditions, les meilleures pour les élections apaisées. Le 29 juillet, tel que nous l'avons dit, sauf fête de Dieu, ces élections auront bel et bien lieu.
En tout cas, de plus en plus, des voix s'élèvent pour contester les acteurs du mouvement démocratique, surtout en cette veille d'élection présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Cap maintenant sur le Togo où le fléau du mariage forcé des enfants perdure et semble même avoir gagné du terrain malgré l'arsenal juridique et l'engagement de la société civile et des organisations internationales. Le taux de prévalence de cette pratique est au-delà de 40% dans certaines régions du pays. La correspondante de VOA Afrique, Lomé Kaylorson, nous propose ce gros plan.
L'un des fléaux qui hypothèque l'avenir des jeunes filles et maintient la femme de demain dans la pauvreté est sans nul doute le mariage des enfants. Adidjatou Pumpuni, chargée de projet de lutte contre les mariages précoces à la branche togolaise de Women in Law and Development in Africa, WILDAF Togo, nous explique les différences entre le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé.
Le mariage des enfants, c'est le mariage qui inclut une personne âgée de moins de 18 ans. En dehors du facteur âge, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la précocité du mariage. Le mariage forcé, c'est ce mariage qui a lieu sans le consentement de l'une ou des deux parties. Un mariage d'enfants est un mariage précoce. Est-ce que c'est un mariage forcé? Oui, et pas toujours, parce que il peut arriver que l'enfant lui-même décide d'aller en union ou en mariage. Mais là, encore, il se pose un problème de consentement.
Cette dame qui a requis l'anonymat a échappé à un mariage forcé pendant son adolescence.
Ma maman, elle m'a dit, voilà, le monsieur qu'on a trouvé pour toi, il faut que tu acceptes. Et si tu n'acceptes pas, c'est mon mariage qui est en jeu. Elle va quitter le foyer, quoi. Et moi, j'ai dit oui, j'ai accepté. Et après, je suis allée voir le monsieur, on a discuté. Mais moi, j'étais en classe de quatrième. Je lui ai dit de laisser quand je vais avoir le BTC la nuit suivante, qui va peut-être me permettre de passer les concours. On pourra faire le mariage. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai donné dos, ils ont fait le mariage sans demander mon avis. Et moi, je n'étais pas d'accord. Je l'ai plus ou moins menacé et je lui ai dit que s'il me mariait, je vais le tuer. Et cette phrase ne l'a pas du tout plu. Il a dit oui, c'est bon, lui ne me veut plus. Il s'est resté comme ça.
Au Togo, le taux de prévalence du mariage des enfants est de 35% avec des disparités régionales. Un phénomène qui n'a qu'une seule cause, estime à tout et clou, conseille Jean au plan international Togo.
Les croyances et les normes sociales constituent la cause fondamentale et la cause racine du mariage des enfants. Parce que tous les autres éléments, comme la pauvreté, comme la non-scolarisation, comme le non-enregistrement des naissances, comme l'ignorance des lois, comme la non-application des lois, tout ça là, c'est des facteurs. C'est parce qu'il y a les croyances et les normes qui vulnérabilisent les filles. Ces facteurs-là, quand ils viennent se greffer dessus, on arrive au mariage des enfants. En pensant au mariage, personne ne pense pratiquement pas aux garçons. C'est parce qu'on a des croyances et on a des attentes sociales par rapport aux filles.
Le mariage des enfants contribue énormément à la paupérisation de la gente féminine dans le pays. La pratique, loin d'être éradiquée, persiste à cause de certaines réalités que nous explique Berthe Tate, présidente de l'ONG Alafia.
Un vieux qui veut se remarier parce que sa femme n'arrive pas à le satisfaire, prend sa fille de 14-15 ans et va l'échanger et revient avec une petite fille aussi de 14-15-17 ans. Maintenant, les femmes aussi crient vengeance parce qu'elles trouvent que le monsieur n'a pas été capable par rapport à la survie de la famille et maintenant la fille grande va l'échanger. Donc, le plus tôt, la femme aussi demande à un garçon, prend 20 000, 50 000, 150 000 et la fille au marché est enlevée.
Pour arriver à faire reculer ce drame, le Togo doit mettre en application ses tests juridiques car il est constaté que le pays dispose de bons textes en la matière, mais a du mal à imposer la rigueur de la loi. Kaylorson, Lomé, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel ce mardi, juste après les nouvelles. Nous parlerons de la condition de la femme en RDC avec la ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfance dans la province de Lualaba, Marie-Louise Moussengamafo, qui est également fondatrice de Wetu Mama, une ONG soutenant des femmes qui souhaitent pratiquer des activités génératrices de revenus. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. À très bientôt.
Au Sénégal, le chef de l'État est catégorique. Le pays, affirme Macky Sall, ne saurait tolérer le phénomène d'assassinat des enfants. La semaine dernière, la police sénégalaise a fait état du meurtre de deux enfants et de tentatives d'enlèvement. Pour le président Sall, cette situation est ignoble et inacceptable. Il a ainsi appelé à traquer les malfaiteurs qui s'attaquent aux enfants. Le dernier meurtre a eu lieu à Rufusque, près de Dakar, où un enfant de 2 ans et demi a été retrouvé mort plusieurs jours après sa disparition. Il s'agit en fait d'un phénomène qui prend de l'ampleur dans plusieurs capitales africaines, comme à Libreville au Gabon, où Jean-Elvis Ebangondo est le président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Idriss Fall s'est entretenu avec lui. Nous écoutons Jean-Elvis Ebangondo.
C'est devenu très inquiétant puisque ça prend de l'ampleur. Ces autorités africaines ne veulent pas régler une bonne fois pour toutes le phénomène qui retarde le continent. Au Gabon, le problème existe, ça a été dénoncé en 2005. À l'époque, il y avait un Sénégalais qui était le représentant de l'UNESCO ici, M. Gassama. Le Sénégal était représenté, tous les États de la sous-région étaient là. On a pris des recommandations qui n'ont jamais vu le jour. Le Gabon s'apprête à organiser les élections législatives. Les crimes rituels reprennent. Il n'y a pas que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même au Bénin, on en parle actuellement. Tous ces États-là, les chefs d'État doivent pratiquer la vraie politique, ce n'est pas la démagogie. Nous ne sommes plus là au niveau des beaux discours, dans les amphithéâtres, nous ne sommes plus là-dessus. Le peuple veut vivre dans la paix.
C'est des croyances qui ont la peau dure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher de telles pratiques?
Les hautes personnalités, des chercheurs se sont réunis ici à deux reprises à Libreville en 2005 et en 2014. Il faut, dans un premier temps, encourager la méritocratie. Dans un second temps, appliquer la loi, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité. Dans un troisième temps, quand on parle de crimes rituels, c'est un problème de culture. Et cette culture est imposée. L'idée qui a été germée au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire essayer d'éteindre ces religions qui viennent par-ci, par-là.
Est-ce que c'est simplement des opérations de police, arrêter les auteurs, ou bien il faut aller au-delà?
Il y a valoriser nos valeurs. La culture de l'amour, de la paix, renforcer l'équipe des médecins légistes, laisser la population s'exprimer, encourager, comme au Cameroun, c'est grâce à la population qu'on a mis facilement la main coupables qui sont déjà arrêtés. Donc je crois que s'il y a une volonté politique, je crois que le problème sera résolu sans difficulté.
Mais c'est des pratiques où on ne les fait pas sur les places publiques, c'est généralement caché, c'est occulte.
L'occultisme ne fait pas avancer l'Afrique. Je ne crois pas que en pratiquant cela, nous aurons des vrais ingénieurs, des intellectuels et cadres de haut niveau qui peuvent faire avancer notre continent. Au contraire, quand on tue, on ne tue pas les fous, on tue la jeunesse, on tue les gens valables et ça nous retarde. Il y a la psychose, ça nous retarde.
Jean-Elvis Ebangondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Burkina Faso vit au rythme de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture depuis ce week-end. Le coup d'envoi a été donné samedi dernier à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Ce festival, qui a lieu chaque deux ans, a été lancé en 1983 par Thomas Sankara afin de mettre en relief le patrimoine culturel et traditionnel burkinabé. L'événement est le plus important du pays après le FESPACO de Ouagadougou. Au moins 1500 artistes issus de toutes les localités du pays prennent part à la manifestation cette année. Reportage sur place de notre correspondant Lamine Traoré.
Le premier ministre Paul Kaba Thiéba, par ses trois coups de gong, a ainsi donné le top départ de la 19e édition de la SNC, Semaine nationale de la culture, Bobo 2018. Plusieurs centaines de personnes au stade ont vu défiler l'ensemble des communautés du Burkina Faso, des richesses et diversités culturelles venues des 13 régions du pays. Des artistes, toutes disciplines confondues, danse, musique traditionnelle, art culinaire, littérature et bien d'autres, sont à Bobo. Cette troupe, dans la catégorie poule jeune, venue de la région du centre-ouest, va présenter une danse traditionnelle burkinabé, le Warba. « Kirsi Tiemdoré est l'encadreur de la troupe.
Le warba est une danse qui se pratique lors des rites culturels dans la région du centre-ouest, notamment lors des activités de semences, de labour et de funérailles. Cette danse se danse en accoutrement mwaga.
Ousmane Bansé est responsable d'une troupe du centre-est qui compétit dans la catégorie chœur populaire.
Le chœur populaire, c'est une discipline dans laquelle on demande aux artistes de prouver qu'ils chantent. C'est les chansons qui sont valorisées ici, pas les danses comme ça.
Durant donc une semaine, près de 1300 artistes seront sur les scènes à Bobo-Dioulasso. Au moins 300 000 festivaliers sont attendus à cette Semaine nationale de la culture 2018, selon les organisateurs. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Aujourd'hui prend fin ici à la réalisation Anne Albertson, Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. John Ellison était à la console. Et voilà, chers amis fidèles de la VOA, merci de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée sur VOA Afrique. Take care.